sur les ondes. Cette voix venue tout droit du territoire des ombres. Cette voix immonde qui prend du poids et des galons, qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons. Cette voix aux multiples gorges qui se décharge, habitée d'une haine si virulente qu'elle en éberge. Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire, cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre est d'humeur assassine, elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine. Déteste ses racines, traque son taux de mélanine, reproche l'odeur de sa cuisine ou la largeur de ses narines. Le traite comme un danger, roule son nom dans la farine, ses théories sont consanguines, parle de flingue, de carabine. Défend une France en blanc ou en bleu marine, alors le port et sa portée de goresse enlèchent les babines. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix n'a pas de couleur comme la connerie ou l'ignorance, elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses. C'est l'éloquence pour nous monter les uns contre les autres, elle te rabâche en continu qu'il y a l'étranger et il y a les nôtres.
Né en 2003 à Montreuil, le groupe La Canaille développe des textes engagés et une musique hybride entre le rock et le rap. Interviewé pour Alternante FM, le chanteur Marc Namour aborde des thèmes universels en observant les dysfonctionnements d'un monde à deux vitesses. Sans catastrophisme ni dogme préconçu, le groupe nous livre une œuvre magistrale, décrivant une vision réaliste d'une société en crise. Avec un troisième album autoproduit, La Canaille mène le combat grâce à une plume incorruptible et fédératrice, avec au scratch DJ Pone du groupe Birdy Nam Nam. Les spectateurs de la salle 450 du festival Tiss & Métis se rappelleront longtemps de la prestation énergique du crew. Alors nous avons l'honneur de recevoir Canaille aujourd'hui, donc Marc Namour du groupe Canaille, La Canaille pardon, donc sur les ondes d'Alternante FM pour le festival Tiss & Métis. Première question que j'ai envie de te poser Marc au sujet de votre dernier album, La Nausée de 2014. Tu parles dans tes lyrics autant de problèmes de la vie courante que de problèmes de société. Je pense notamment au titre Desséché, Encore un peu ou le son Jamais National. Et on souhaitait savoir d'où te venaient en fait tes sources d'inspiration. Alors est-ce que ça peut être dû à des expériences personnelles, plutôt une vision médiatique ou des rencontres?
Bah, je pense que c'est un peu tout ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression que moi, que du coup, un artiste au sens large, ben, c'est comme un espèce de photographe, tu vois. Il prend des clichés de la vie de tous les jours, et puis après, il le propose aux gens. Et après, libre à tous de se faire une petite idée là-dessus, voilà, de partager des sentiments, des émotions, et surtout de se questionner sur le monde dans lequel on vit, quoi. Alors que ce soit au niveau de l'intime ou au niveau plutôt sociétal ou au niveau politique. Moi, de toute façon, j'ai souvent, en gros, plusieurs axes d'écriture. Donc des fois, c'est des thématiques qui vont être OK, qui relèvent de l'ordre de l'intime. Parce que j'aime bien ça, parce que partir de quelque chose de très personnel. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est après que ça devienne universel. Parce que je pense que tout le monde, après, va se reconnaître dedans. Et après, il y a des choses aussi que j'aime bien réagir en fonction du contexte dans lequel j'écris, tu vois. Donc effectivement, La Nausée, c'est un album très contextualisé. Parce qu'il ne se serait pas appelé La Nausée si je ne l'avais pas écrit en 2014, dans une période un peu sombre, pour moi en tout cas. Et après, j'aime aussi raconter des histoires, avoir une narration. Et je trouve qu'avec avec ce procédé d'écriture aussi, tu développes un imaginaire et après, libre à l'auditeur de se faire un avis sur la question. Et je trouve aussi que c'est bien... j'aime bien les histoires aussi. Voilà, donc j'ai trois façons d'écrire et après je les développe selon les albums.
Je rebondis juste rapidement par rapport à ça. Donc du coup, toi, quand tu écris, est-ce que tu pars d'une base musicale et de sonorité, d'une production, ou alors c'est plutôt la production qui va s'adapter au message que tu cherches à faire passer? Est-ce que c'est un jeu incessant ou est-ce qu'il y a une logique de construction, une petite chronologie où on va d'abord partir du lyrics ou d'une production musicale?
Alors, Écoute, c'est toujours la même recette en fait. C'est-à-dire que du coup, moi, je pars toujours d'une petite atmosphère très minimaliste, mais qui me permet juste moi de développer un imaginaire là-dessus. J'ai une idée, voilà, de thématique qui vient en fonction de cette atmosphère très minimaliste. Et une fois que j'ai fini de construire le texte, que la pensée elle est claire, elle a un début et une fin, là, à ce moment-là, on se dit on va attaquer les arrangements pour trouver le meilleur lit pour que les mots résonnent. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe.
Pour que les mots résonnent, donc ça c'est un peu un petit secret de fabrication. Faut vraiment que ce soit. Faut que le message passe, bah ouais, clairement.
Carrément, bah, de toute façon, de manière, dans ce projet, le texte est au centre de la création, quoi, c'est sûr.
Alors justement, Marc, tu parles de création. On aimerait savoir tes derniers albums, en fait. Enfin, tous tes albums, tu les as autoproduits. Donc, on aimerait savoir pourquoi ce choix, plutôt que de passer par une maison de disques, un label.
Je vais te dire franchement, c'est-à-dire que c'est un choix qui ne s'est même pas posé. En fait, du coup, moi, je viens de l'école du do-it-yourself depuis le départ. C'est-à-dire que du coup, voilà, moi, je crois en ça. Et donc, j'ai même pas eu la démarche d'aller voir les autres parce que je viens d'un milieu qui n'attend pas, en fait, pour que les choses se fassent, qu'une quelconque main invisible déboule et t'aide depuis le départ, moi, depuis que je suis tout gosse, chaque fois que je fais quelque chose, je ne compte que sur moi, en fait, au final. Progressivement, ça s'est construit comme ça parce que c'est dans mon développement personnel logique, tu vois, de toujours. Et aussi, quelque part, ça, c'est une fierté aussi, tu vois, une indépendance et qui fait que du coup, qui me permet, moi, une liberté artistique totale. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de demander l'aval d'un quelconque DA pour choisir tel ou tel arrangement ou décider de traiter telle ou telle thématique. Et de nos jours, je trouve que l'avenir est là-dedans. Ça veut dire que l'industrie du disque est tellement dans un piteux état, tellement consensuel, parce que forcément, vu que ça vend moins de disques, ils vont vouloir mettre en avant les projets les plus consensuels et les plus, on va dire, les plus polissés. Et alors que nous, vu qu'on n'est pas du tout là-dedans, on se défend tout seul, quoi, tu vois. Et d'un autre côté, ça nous permet aussi d'avoir une relation directe avec les gens et de se dire, voilà, c'est du producteur au consommateur sans intermédiaire, quoi.
Est-ce que tu as eu des propositions justement de certains labels pour te proposer de produire tes albums?
Oui, ça m'est arrivé. Mais du coup, je trouvais pas que la proposition était assez intéressante pour d'un coup lâcher ma liberté et accepter le deal. Parce qu'il faut savoir après que les deals, ils sont plus ou moins honnêtes, tu vois. Et donc du coup, moi je trouve que là, avec le deal en autoprod, tu sais qu'après c'est à toi de te retourner les manches, mais après par contre, du coup, les revenus, c'est pour toi, tu partages pas.
Pour rebondir sur ta liberté artistique, nous souhaiterions savoir quels sont tes prochains projets sur le court ou long terme, notamment en ce qui concerne les clips, des EP, des albums à venir. Nous souhaiterions savoir où est-ce que tu en es par rapport à tes projets.
Alors, du coup, La Canaille va sortir un nouvel album en septembre septembre 2016. Et du coup, là, je pense que quand l'émission sera diffusée, ce sera passé. Mais le 1er décembre, on sort un EP en téléchargement gratuit. Aussi, ça, c'est une première pour nous parce qu'on a envie aussi de coller au temps de la création. Parce qu'en général, quand l'album sort, tu as fini de l'écrire depuis au moins un an, tu vois, et tu es déjà sur quelque chose d'autre. Donc du coup, j'avais envie pour une fois de me dire que là, je vais avoir un rapport direct avec les gens et que la galette sortie du four, automatiquement, elle est présentée aux gens. Et donc, ce côté en direct me plaisait bien. Et puis, c'était une petite mise en bouche en plus de l'album qui va débouler en septembre. Donc voilà, là, on va bientôt le finir, cet album. Ensuite, moi, à côté de ça, j'ai plein de projets, en fait, d'écriture plus ou moins rapologique. C'est-à-dire que moi, je joue avec les mots, c'est mon métier, tu vois. Et après, j'aime bien aussi avoir une expression qui va être dans un autre registre que le rap. Même si j'adore le rap et je continue à rapper tout le jour, quoi, je pense. Mais j'aime bien aussi avoir une expression plus poétique, plus scandée, plus des fois une écriture aussi plus en prose. Et je suis résident dans la fondation Royaumont qui va me permettre en gros de mettre en place trois créations en trois ans, trois grosses créations qui va être présentée à Avignon cet été dans le Huyn. Après, j'ai une relation aussi auquel je tiens énormément, c'est avec Serge Tessoguet. On a trois projets ensemble. On propose une lecture improvisée du cahier d'Arthur au Pays Natal. Donc c'est en gros ces zones libres, c'est un trio, c'est zone libre, la guitare, batterie et moi à la voix. Ça c'est quelque chose de complètement, c'est pas mes textes, mais c'est un texte moi qui me bouleverse et qui a été fondateur en tout cas dans ma façon d'écrire. Et donc ça on le donne au public, c'est un titre d'une heure et demie en improvisation totale. Après, j'ai deux autres projets avec lui, dont aussi le projet Zone Libre Polyurbaine qui est en train de tourner en ce moment avec une collaboration entre un rappeur américain, Mike Ladd, et moi. Et on fait un hommage à la banlieue au sens large du terme. Enfin voilà, donc tu vois, j'ai cinq projets en gros qui tournent en ce moment et c'est chouette. C'est-à-dire que c'est des terrains de jeu, en tout cas, où moi je peux me renouveler, je peux me remettre en danger, je peux tester de nouvelles choses sans avoir l'impression de me répéter voilà.
Alors une petite question annexe qui sort un petit peu du cadre, je l'improvise, mais c'est pas grave parce que ça me fait penser. Tu me parlais de septembre 2016. Alors moi, je suis un grand fan de rap, notamment. Et en septembre 2016, on fêtera entre guillemets les 20 ans de la mort de Tupac Shakur. Est-ce que cet artiste inspirait d'une certaine manière, parce que c'était quelqu'un qui était quand même porteur de pas mal d'idées à une certaine époque, dans les années 90. Est-ce que c'est un artiste sur lequel tu t'es peut-être un peu intéressé ou pas du tout?
Ouais, carrément. Moi, Tupac, s'il y a un album en gros que je retiens de lui, c'est All Eyes on Me. Tu vois, cet album-là, moi, j'ai pris une grosse claque quand il est sorti. Et en plus, surtout que moi, je suis de la génération qui assistait à, j'ai 38 ans. Donc, du coup, quand il est sorti, c'était en plein dans ma génération Peura. Donc, c'est clair que j'ai pris une bonne claque. Après, maintenant, moi, je respecte le personnage. J'aime bien mais c'est pas les textes dans le peur américain qui, moi, je trouve, en gros, vont le plus me toucher au final. Mais par contre, j'adore le personnage. J'adore son côté. C'est un rebelle, quoi, tu vois. Et il s'est opposé, tu vois, à je pense qu'il a mené des bons combats, quoi, tu vois. En tout cas, dans l'émancipation du peuple black, quoi, tu vois. Aux États-Unis, ça a beaucoup joué. Et c'est un grand artiste, pure flow, de toute manière, c'est chaud. Mais après, on va dire que le personnage, moi, me fascine, mais ça ne fait pas partie des plumes que je préfère dans le rap américain. Voilà.
Alors, je vais revenir à une époque un peu plus récente. J'aurais envie de dire, malheureusement, par rapport aux événements tragiques qui se sont déroulés il y a quelques jours, je voulais savoir si ce qui s'est passé pourrait peut-être faire partie intégrante de ton prochain projet ou ton prochain album en 2016, ou pas du tout
Non, mais c'est sûr que ça va être en filigrane, de toute façon. De toute manière, ce genre d'événement, tu peux pas l'oublier, tu vois. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, au final, de traiter de ces événements qui sont des événements politiques, quoi, tu vois. Moi, ça commence pas maintenant. Tu vois, ça fait 10 piges, moi, que je suis là-dedans. Et que, du coup, que je me sens concerné par rapport à comment le monde évolue, quels sont, les tenants et les aboutissants, en gros, des jeux d'influence, des alliances, des machins, le Nord contre Sud, tu vois. Enfin, tout ça, c'est des questionnements que moi, j'ai depuis longtemps. Moi, je suis né au Liban, tu vois. Et cette fameuse semaine tragique, deux jours avant, c'était à Beyrouth, tu vois, chez moi, à deux pas de chez ma grand-mère. Après, deux jours plus tard, c'était au Bataclan. Deux jours après... Tu vois, c'était au Mali, après en Tunisie, enfin tu vois, là c'est vraiment une sale période là. Donc forcément, ça va avoir une influence sur moi, ma façon d'écrire ou d'aborder les thématiques, tu vois, que je vais traiter. Mais c'est pas quelque chose qui vient de naître, tu vois. Moi je le considère que ça va être dans une... une logique, dans la même logique dans laquelle je suis depuis très longtemps. Moi, de toute façon, j'ai le poétique et le politique, chez moi en tout cas, n'ont jamais été, Enfin, la frontière entre le poétique et le politique, elle est infime, quoi, au final.
Moi, j'avais une question par rapport justement à la... Tu parles de la poésie, tu parles des textes un petit peu... Ça me fait penser au slam. Est-ce que tu te différencies du slam, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'intègre un peu dans ton travail? Est-ce que tu as fait des collaborations avec des gens comme Grand Corps Malade, etc.?
Alors, je vais te dire, moi, honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire le slam, en fait. Je ne sais plus. C'est-à-dire qu'à la base, le slam, c'était sans musique. Maintenant, du coup, tu as des slams avec musique. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, ce courant musical. En fait, tu vois, et la frontière entre rap, est-ce que c'est du rap, est-ce que c'est du slam, est-ce que c'est... Au final, je trouve que c'est un faux débat. C'est-à-dire, pour moi, je considère que c'est un faux débat dans le sens où ces questions de chapelle ou de tiroir, tu vois, moi, ça m'intéresse pas trop. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, au final, c'est qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu défends quand tu montes sur les planches et comment tu le fais. Maintenant, à savoir, est-ce que j'ai envie de revendiquer une appartenance au rap, au slam, au punk, au rock, enfin, tu vois, ça, c'est j'y pense pas, en fait, tu vois. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus authentique possible dans mon rapport à la création et d'arriver sur scène et de partager des choses au-delà de la musique, des valeurs aussi, avec les gens. Alors après, j'ai envie de dire, ça, l'appellation ne m'appartient pas, en fait. C'est-à-dire que c'est aux gens de se faire leur opinion et d'appeler ça comme ils l'entendent, tu vois, comme ça les arrange. Voilà, peu importe, tu vois, à la limite, moi je vais te dire que je vais plus me reconnaître, parce que le slam c'est un terme galvaudé, c'est, enfin, tu vois, moi perso je me reconnais pas du tout dans ce que fait Grand Corps Malade, tu vois, par exemple, je trouve ça beaucoup trop lisse, beaucoup trop gentil, tu vois, moi j'ai pas envie de me positionner comme ça actuellement, c'est-à-dire que j'ai envie d'être beaucoup plus subversif, beaucoup plus, tu vois, appuyer là où ça fait mal des fois, ou être, enfin voilà, moi j'aime bien les choses un peu plus sales, quoi. Tu vois, que ce que propose Grand Corps Malade, voilà. Et voilà. Donc après, mais moi, du coup, je pense que je m'apparente aussi à un mouvement qui s'appelle, je sais pas, le spoken word, ou tu vois, la poésie scandée. C'est quelque chose aussi qui me parle. Mais encore une fois, les appellations, ça ne... Voilà, mais j'y pense absolument pas. C'est-à-dire que du coup, quand je traite une thématique, tu vois, ben ouais, je me dis, voilà, des fois, en fonction de la musique et de la thématique, ben peut-être qu'une écriture en prose va être beaucoup plus juste au final que de vouloir avoir des rimes, tu vois, sur chaque deux temps ou des allitérations. Ou des, voilà. Tout dépend de la thématique, tout dépend de l'envie, tout dépend avec les musiciens avec qui je collabore. Ça varie. Mais moi, en tout cas, jouer avec les mots, c'est un plaisir que j'ai à chaque fois, quoi. Voilà.
Est-ce que tu pourrais nous rappeler d'où tu viens et ce que tu faisais avant d'être la canaille ?
Écoute, moi je suis né au Liban, je suis arrivé en France à 8 ans, j'ai grandi dans l'est de la France et après ça fait 15 ans que j'habite à Montreuil maintenant. J'ai grandi dans une petite ville dans le Jura, une ville ouvrière qui a été, c'est sûr, qui a été déterminante en tout cas moi dans ma vision politique des choses, quoi, tu vois, parce que en gros ce qui nous attendait, en gros tous, voilà, moi j'ai grandi dans des cités, tu vois, où il y avait en gros tous les ouvriers, quoi, tu vois, qui étaient là-bas. Et il y avait une seule chose qui était sûre, c'est que les portes des usines étaient grandes ouvertes pour nous, et il y avait que ça qui nous attendait. Et donc du coup moi à ce moment-là, il y a une colère, tu vois, qui est née à ce moment-là. Une revendication politique d'affirmation, de voilà, une quête d'émancipation qui est née à cette époque-là et que je continue de développer parce que je suis issu du monde ouvrier et c'est un monde qui me touche, c'est un monde auquel je fais hommage régulièrement, voilà. Et maintenant, depuis 15 ans, j'habite à Montreuil et c'est la première fois que je me sens bien dans une ville, et c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps et que je reste encore dans cette ville, parce que il y a quelque chose de très très précieux dans cette ville, dans le sens où on vit ensemble, mais vraiment, concrètement. C'est-à-dire que du coup, dans cette ville qui fait quand même 110 000 habitants, c'est vraiment collé à Paname, mais tu vas croiser le Lascar, tu vois, de base de Tchékar, avec le petit bobo, tu vois, machin, avec le mec, l'homme d'affaires. Moi, quand je sors de chez moi, je vais croiser des Pakistanais, des Maliens, des Nord-Africains, des Libanais, enfin, tu vois, et on est tous... Et tu le sens dans la ville qu'on vit ensemble. La preuve, c'est qu'au dernier municipal, quand du coup, alors le FN faisait un massacre, quoi, tu vois, en gros, il était présenté dans toutes les villes, une ville comme Montreuil, il n'est pas foutu de faire une liste, le FN, parce que cet argument-là ne passe pas. Parce que historiquement, dans la ville, il y a un vivre ensemble qui est depuis très 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 longtemps. Grosse communauté rome, gitans, voilà, plein de quartiers populaires, et tout ça fait qu'il y a dans la ville, tu le ressens, une grosse dynamique et aussi une grosse communauté artistique qui fait qu'il y a plein de musiciens, voilà. Donc moi j'ai construit un tissu artistique, social, familier, tu vois, dans cette ville, et au final c'est la ville dans laquelle j'ai passé le plus de temps. Et donc si on doit parler d'identité, ouais, effectivement je me sens pas français, mais je me sens montreuillois, tu vois, je suis l'endroit où je vis, voilà.
Est-ce que tu, à l'heure actuelle, tu sentirais au fond de toi une forme de projet politique personnel ou un souhait ou une volonté de prendre des responsabilités pour essayer de faire bouger un petit peu, de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière ? Parce que ça fait quand même 20-30 ans qu'on tire un peu la sonnette d'alarme. Il n'y a pas grand-chose qui bouge, même rien, ou on va vers une décadence. Est-ce que tu... Non, pas de projet
Le projet politique, non, pas du tout. C'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Moi, je suis en tant que citoyen, si tu veux, je m'intéresse énormément à la politique. Mais après, maintenant, de me dire, je vais rentrer dans ce milieu pour essayer de faire quelque chose en politique, non. Mais je considère aussi qu'à partir du moment où tu montes sur scène, c'est politique. À partir du moment où tu as une parole et tu la partages en public, c'est politique. Tu vas débattre, tu vois, dans ton cercle intime, c'est politique, tu vois, quelque part moi je crois vachement à ça, c'est-à-dire que, et puis aussi surtout c'est là où je me sens le mieux, c'est-à-dire que c'est là où je me sens en phase avec ce qui je suis, ce que j'ai envie de faire, et voilà, j'ai pas du tout envie d'avoir une étiquette politique, d'ailleurs je sais même pas dans quelle organisation, si tu veux, je rentrerai, voilà, moi j'ai des sympathies mais qui me sont propres, tu vois, personnelles, forcément quand je vais voter, tu vois, voilà, mais Ouais, je me sens bien là où je suis. J'ai pas du tout envie d'aller dans le milieu politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un rapport beaucoup plus simple et tu vois avec les gens et tu vois de voilà direct, tu vois en concert. Là, cette année, c'est une année où je tourne énormément. Donc j'ai la chance de rencontrer plein de personnes dans plein de réseaux différents. Et moi, c'est ma façon de faire avancer les choses, tu vois. Voilà.
Et justement, sur tes projets personnels, Tissé Métis, comment t'es venu à participer à ce festival, en fait ? Comment ça s'est fait ?
Ben, très simple, en fait, le festival a demandé à mon tourneur de venir, quoi. Ah,
et
c'est ça. et ben voilà, mais après, si tu veux... moi, quand on me dit voilà, bah, tu vas venir à Tissé Métis, je me renseigne aussi si tu veux, sur où je mets les pieds, tu vois. Donc après, quand j'ai vu la ligne éditoriale aussi du festival, je me suis dit bah cool, tu vois. C'est pas juste la fête de la saucisse. Il y a d'autres.
Ça,
non, mais tu vois. Non, mais parce que je dis ça, c'est-à-dire que du coup, les festivals, maintenant, c'est une réflexion que j'avais avec Serge Tissoguet, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. On se disait que c'est clair que maintenant, les gros festivals, c'est devenu la fête à la saucisse. C'est-à-dire que, au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est juste un espèce de prétexte à vendre de la bière, à vendre de la bouffe. Ils ont tous la même programmation. C'est quelque chose de très lisse, quoi, tu vois. Alors qu'au départ, les festivals, c'était quelque chose qui s'apparentait à la contre-culture. Justement, pour proposer autre chose que ce qu'il y avait dans les milieux institutionnels et tout ça. Et c'est sûr que là maintenant, putain, la contre-culture, faut la chercher, quoi, tu vois. Et donc, du coup, quand je vois des manifestations voilà, de ce genre-là et qui essayent aussi de mettre un peu de valeur politique dans le festival, bah, putain, voilà, moi, je soutiens à fond.
Ça t'est déjà arrivé de te faire boycotter ?
Je sais pas que je sache, peut-être, mais tu vois, mais en tout cas, c'est pas remonté jusqu'à moi, quoi, tu vois. J'ai pas eu un organisateur me dire ah non, alors toi, jamais de la vie, tu passeras. Il m'est arrivé d'avoir des petits problèmes pendant certaines chansons qui sont un peu polémiques, quoi, tu vois. Mais à la limite, ça, je m'en fous, quoi, tu vois. Tant mieux si ça dérange, quoi.
Menaces, lettres, problèmes de fiscalité ?
Ah non, pas du tout. Non, c'était plutôt, tu vois, par rapport à des thématiques qui sont un peu, tu vois, subversives, qui fait que d'un coup, tu te dis, ah, là, il y a peut-être moyen que la soirée change de ton. Voilà.
On approche de la fin, on va pas te garder trop longtemps non plus, on sait qu'il faut que tu enchaînes. Comment tu te vois, toi, d'ici 20-30 ans ? Comment tu te vois en tant qu'artiste ? En tant que personne ?
Franchement, c'est une bonne question parce que je sais pas. Moi, j'arrive à me projeter dans un an, mais dans 30 ans, je sais pas. J'espère que je pourrai avoir l'occasion toujours de d'écrire. J'espère que j'aurai encore des choses à dire. En tout cas, c'est sûr que je ne sais pas. Je prends pas la musique comme une carrière. Tu vois, ça veut dire que du coup, moi, j'écris parce que je suis rempli de quelque chose. Peut-être qu'un jour, j'aurai le sentiment d'avoir tout dit. Tu vois, comme Brel, à un moment donné, il a arrêté. Il s'est dit, bah, mais les gars, moi, c'est bon, j'ai plus rien à dire. Quoi. J'ai tout dit. J'ai l'impression que ça y est. Sinon je vais me répéter, donc je sais pas, en fait dans 20-30 ans c'est vraiment le flou, je vis à court terme, quoi.
On se reverra pour la 50e édition de Tissé Métis, tu seras peut-être encore rappelé.
Ça,
bon, en tout cas un grand merci à toi Marc Nemours du groupe La Canaille, on te remercie, on te souhaite un bon, très très bon show ce soir et puis sans doute à très très bientôt, merci à toi.
Mon identité, elle est plurielle, elle est changeante. Et heureusement, elle n'hésite pas à prendre la tangente. Elle s'inspire de toute culture, s'inspire de toute étoile. Elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal. Mais cette voix veut me tirer vers le fond. C'est cette voix, encore une fois, que je combats sans rémission. Dressée contre son ordre, contre sa morale, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Donc pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Donc pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais nationale, mon identité.
identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale.